raconte. Christophe Ondelatte.
Voici le cinquième et dernier épisode de ma série consacrée à l'affaire Daval. Et je vous signale que les quatre premiers sont disponibles en podcast. Qu'est-ce qui a amené Jonathan Daval à tuer Alexia, sa femme? Quels sont les ressorts psychologiques et psychiatriques de son crime? Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Jonathan Daval.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En octobre 2017, à Gré-la-Ville, en Haute-Saône, Jonathan Daval étrangle sa femme Alexia. Et pendant 3 mois, il joue les veufs éplorés jusqu'à ce que les gendarmes lui collent suffisamment de preuves sous le nez pour qu'il soit contraint d'avouer. 3 ans plus tard, il est jugé devant la cour d'assises à Vesoul. Au 3e jour d'audience, le président le bombarde de questions sur sa vie de couple et Daval craque.
Monsieur Jonathan Daval, levez-vous. Une petite demi-heure d'audition et dans le box l'accusé qui s'évanouit.
Il est près de 20h quand le véhicule des pompiers évacue Jonathan Daval vers l'hôpital de Vesoul.
Et je pense aussi qu'émotionnellement, la journée était très dure.
J'étais en face de lui, j'ai vu devenir blanc. Oui, c'était pas du pipeau.
À un moment donné, il y a de telles tensions chez l'individu qu'il va chercher un échappatoire.
Tony Harpin, expert psychologue.
Il y a quand même ça chez Jonathan, il y a deux personnalités. Il y a cette personnalité qui est en false self, c'est-à-dire qui se soumet, qui dit ce qu'on veut bien et qui n'existe pas. Et puis de temps en temps, il y a cette personnalité qui va se révolter en lui et qui va essayer de réagir. Ces deux personnalités vont se juxtaposer sans jamais se rencontrer. Mais de temps en temps, c'est plus possible. Donc, ces deux personnalités vont se télescoper. Et ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une sorte de faille. Et à ce moment-là, c'est le corps qui lâche. C'est-à-dire que l'individu va faire un malaise, c'est-à-dire qu'il va se soustraire à sa manière, à la tension qui est trop forte à ce moment-là. Donc l'affaire Daval, c'était quelque chose d'un peu particulier, puisque c'est le magistrat lui-même qui tenait à ce que ce soit moi, puisqu'il avait l'habitude de travailler avec moi et qu'il m'estimait, je crois. Et je savais que je m'embarquais dans quelque chose de très médiatisé et donc probablement de très compliqué. C'était un détenu qui était jugé particulièrement en danger dans l'univers carcéral. Donc, il se retrouvait à la maison d'arrêt de Dijon, mais non pas incarcéré, mais au centre de santé mentale de la maison d'arrêt. Lorsque j'arrive, on me dit « ben non, c'est pas possible parce qu'il y a une réunion de médecins, donc il faut qu'on trouve ailleurs ». On finit par me trouver un bureau au parloir, j'y reste 5 ou 10 minutes, et là on m'interrompt alors que je viens de commencer l'entretien en me disant « c'est pas possible, on peut pas assurer votre sécurité ». On perd déjà une heure et demie à finir par se dire « bon ben voilà, on est face à face tous les deux, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est à partir de ce moment-là que le dialogue va s'instaurer.
Bonjour, monsieur Daval. Je suis Tony Harpin. Je suis le psychologue qui a été missionné pour vous expertiser. J'ai quelques questions à vous poser, des questions auxquelles la justice m'a demandé de répondre, principalement sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous échangions ensemble, monsieur Daval? Oui.
Dans le cas de Jonathan Daval, il n'y a eu aucun problème, il était tout à fait d'accord. Donc on s'est organisé de la façon suivante, le matin un entretien, mais comme c'était trop court, l'après-midi pour la passation des tests. Il m'a mis une condition à cela, c'était qu'il puisse entre-temps aller au parloir rencontrer son frère. Au moment où je le rencontre, Jonathan Daval, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une victime éplorée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait relativement chétif. Il avait perdu beaucoup de kilos parce qu'il avait déprimé au début de son incarcération. Là, il allait un petit peu mieux. Mais un chien battu. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, tête baissée, larmoyant, s'exprimant entre plus ou moins deux sanglots. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une victime et pas du tout un agresseur. À ce moment-là, on m'aurait rien dit, je n'aurais même pas soupçonné que c'était quelqu'un qui puisse avoir être soupçonné d'un passage à l'acte tel qu'était décrit. C'était pour moi quelque chose d'impossible. Alors, d'autre part, quelqu'un de très un peu obséquieux, prêt à répondre à toutes les questions. Très rapidement, je me suis aperçu que c'était probablement une personnalité extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'il Il rentrait en quelque sorte en symbiose avec moi pour essayer de comprendre ce que j'attendais de lui et qu'est-ce qu'il devait répondre. Et en permanence, j'avais l'impression qu'il n'existait qu'à travers mon regard et à travers mes paroles. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui est construit en faux self. C'est-à-dire qu'on se construit, mais pas comme on souhaite l'être. Et j'ai l'impression que Jonathan, entre autres, dans sa personnalité, il y a du faux self. C'est-à-dire qu'il veut tellement faire plaisir, tellement montrer aux autres qu'il est bien, qu'il va faire non pas ce qu'il souhaite lui, mais ce qu'il pense que les autres souhaitent pour lui. C'est une personnalité tout à fait, qu'on peut dire, caméléon. C'est-à-dire qu'il va changer en fonction des personnages qui l'entourent, comme le caméléon va changer en fonction des couleurs du paysage.
Code B21. Examen psychologique de Tony Harpin. Jonathan Daval est frustré affectivement, dépendant de l'objet aimé. Il ne supporte pas dans ce domaine le rejet ou la rupture. Il s'agit d'un sujet mal structuré qui peut s'adapter ou transformer la réalité en fonction des circonstances. Il peut devenir simulateur pour préserver son ego.
Alors, moi, je pense qu'il a une personnalité qui est extrêmement complexe. À la fois, c'est quelqu'un inachevé, c'est un grand gamin, un grand immature affectif. C'est quelqu'un qui a besoin en permanence d'être aimé. Donc, il est en recherche permanente de cela. Alors, avec sa mère, parce qu'on apprendra aussi que quand il dit qu'il va bosser, souvent, il allait chez sa mère. Pour se faire chouchouter un petit peu. Et puis, il se faisait chouchouter par les beaux-parents, où il était reçu comme le dieu, le garçon qu'il n'avait pas eu, chouchouté par sa femme. Donc ça, c'était sa personne. Il y a un besoin immodéré des carences abandonniques de la petite enfance. Une grosse appétence, un gros besoin d'être aimé, d'être reconnu. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on sait aussi que dans beaucoup de cas de ces personnalités qui sont des personnalités soumises, des personnalités qui apparemment n'ont aucune agressivité, ils ont ce qu'on appelle des failles. Et que si on touche dans ces failles, ils sont capables à ce moment-là de changer complètement de comportement et de devenir au contraire extrêmement agressifs et, j'allais dire, dangereux dans ce domaine.
L'expert psychologue conclut que Jonathan Daval a une personnalité caméléon, qu'il s'adapte à son interlocuteur pour lui faire plaisir. Pendant toute sa garde à vue, ses faits et gestes sont scrutés par des profileurs de la gendarmerie. Il parle d'un homme particulièrement rôdeur.
Il est assez froid, en fait. C'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Vraiment pas.
Chef d'escadron Audrey Renard, analyste comportemental de la gendarmerie.
La première chose qui me frappe quand il arrive dans la salle de garde à vue, qu'il s'installe, c'est qu'il correspond physiquement à ce que j'avais imaginé de lui, en fait. Moi, je m'étais fait l'idée de quelqu'un qui était, assez timide, réservé, chétif. Il baisse la tête. Ça, il baisse la tête beaucoup, moi, je trouve. Il n'a pas une attitude charismatique, il n'a pas une attitude de « je vais me battre, je vais affronter la situation, je vais prendre mes responsabilités ». Il est arrivé en garde à vue comme quelqu'un qui arrive au bagne. Je viens prendre ma fessée, quoi. C'était très enfantin. En plus, il se trouve qu'il a une voix assez aiguë, donc il fait très enfantin, vraiment. C'est un enfant.
Les proches de la jeune femme organisent une marche blanche pour lui rendre hommage. Plus de 8000 personnes y participent. Jonathan Daval prend la parole pour la première fois.
Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser de nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Cette plénitude me manquera terriblement.
Mais en vrai, ce dont on se rend compte après dans le cours de la garde à vue, c'est qu'il est extrêmement résistant. Parce qu'on aurait pu penser qu'il ait peur, qu'il soit stressé, que du coup il allait s'effondrer. Or, pas du tout. On n'a pas du tout affaire à cet individu-là. En fait, on va être assez surpris, puisque les auditions vont s'enchaîner en lui mettant sous le nez toutes les incohérences, les contradictions de ce qu'il nous avance. Pas de problème, il reste campé sur ses positions.
Côte D3902, audition de garde à vue. Vous avez des déclarations à nous faire spontanément, monsieur Daval ?
Je l'ai pas tué. C'est pas moi.
Nous pensons, monsieur Daval, qu'il s'est passé quelque chose au cours de la nuit.
Qu'en dites-vous ? Je sais pas.
Connaissez-vous beaucoup de personnes, monsieur Daval, qui se font mordre sans qu'il y ait de violence ?
Non ?
Il n'y a pas de violence au sein de notre couple. Il s'est passé quelque chose. Il vaut peut-être mieux vous expliquer.
Je n'ai pas tué Alexia, il ne s'est rien passé.
On a notre part de responsabilité dans le mensonge initial de la garde à vue.
Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
Nous, ses avocats, on est convaincus de son innocence. On lui explique, hein. On ne va pas révéler les secrets de ce qu'on s'est dit, mais enfin, très clairement, on prépare les gens à la garde à vue. Et pour nous, il n'y a pas d'élément contre Jonathan Daval. On lui explique le jeu des gendarmes, le gentil, le méchant, comment ça fonctionne, les interrogatoires, on lui explique tout. Il est équipé, on est là, on est présent à tous les interrogatoires, on est avec lui, jusqu'à ce qu'on commence à voir dégringoler dans la presse des éléments dont on n'a même pas connaissance parce qu'on n'a pas encore accès au dossier. Et petit à petit, on se dit, non, c'est catastrophique parce que nous aussi, on l'a construit aussi dur que ça, sa mère aussi. En disant, mais, parce qu'il le dit à sa mère, elle l'écrit en disant, mais maman, tu sais, je suis le mari, je vais donc être inquiété, certainement arrêté, puisque nous, on l'a prévenu qu'il allait être arrêté, de toute façon, plus d'un mois avant qu'on l'arrête. Et même sa mère lui dit, on ne parle pas de ça, enfin, t'as rien fait, c'est pas normal qu'on t'embête avec ça. En fait, on l'empêche tous de parler.
Nous, ce qu'on a pu mettre en avant, peut-être en amont, c'est ce qu'on peut appeler des personnalités passives-agressives. Passives-agressives, ça ne veut pas dire qu'à la fois ils sont gentils puis méchants, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, leur agressivité passe par la passivité. En étant dans la fuite en permanence et dans l'évitement des conflits que sa femme sollicite, sa femme, elle sollicite pas le conflit, elle sollicite la communication. Alors, elle est peut-être un petit peu virulente, un peu rentre-dedans, parce qu'elle était en demande de réassurance, tout simplement. Et que lui, soit n'était pas capable de lui donner, soit ne voulait pas lui donner. Et si on est dans l'idée qu'il ne souhaitait pas lui donner, alors on est dans une personnalité qu'on peut décrire comme toute puissante, narcissique. Et en fait, au fil du temps, on va s'apercevoir qu'on est peut-être plus là-dedans que ce qu'on avait imaginé initialement. En fait, je trouve que ça va dans la continuité de son narcissisme. C'est « je ne vous dirai pas, je suis dans la toute puissance, je garderai ça pour moi, vous n'en saurez rien. En fait, il nous nargue.
Code P21. Rapport d'expertise psychologique de Tony Harpin. Jonathan Daval est un sujet mal structuré qui peut adapter ou transformer la réalité en fonction des circonstances. Il peut devenir simulateur pour préserver son ego et éviter que son image soit détruite au regard d'autrui.
Après chaque entretien avec son avocat, il revient, on a l'impression qu'il est au bord de l'aveu, à chaque fois. Donc on se dit, nous on n'a pas de contact avec les avocats non plus, donc on se dit légitimement que son avocat doit le pousser à, si ce n'est avouer, au moins s'expliquer.
On ne peut pas raconter ce qu'on dit à l'échange qu'on a, parce que c'est le secret professionnel. En tout cas, et ça, on l'a toujours dit avec Mes Pataphora, puisqu'on était tous les deux avec Mes Pataphora pour cette dernière audition, qui a eu lieu à notre demande, puisque les gendarmes ne voulaient plus en faire à ce moment-là, puisque les profilers leur disaient que de toute façon, Jonathan Daval ne dirait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on lui a expliqué ce qui se passait, bien sûr, c'est évident, mais surtout, on lui a laissé le choix. On ne lui a rien dicté, on ne lui a rien imposé. On lui a toujours laissé le choix à chaque fois qu'il a avancé. Mais il connaissait notre position. Mais on lui a toujours laissé le choix.
Il avait alerté lui-même les gendarmes de la disparition de sa femme. Jonathan Daval vient donc d'avouer ce soir avoir tué son épouse Alexia. Un meurtre par accident, viennent d'expliquer ses avocats.
Parce qu'après, dans la garde à vue, quand il va finir par, je pense, nous dire « Oui, bon, peut-être je suis impliqué dans les faits », il pleure, il nous dit « Bah oui, en fait, c'est moi ». Donc, il pleure. Ses pleurs sont pas très crédibles, en fait. Hein. Ça sonne un peu faux et il se ressaisit quand même très rapidement. Donc, il va nous dire « Ok, c'est moi qui l'ai tué, mais c'est un accident ». Mais en fait, ça ne va pas avec ce qui s'est passé, avec ce que les éléments médico-légaux nous montrent.
Europe 1,
Ondelatte raconte.
Côte B. Christophe Ondelatte.
En disséquant son enfance, les experts psychiatres et psychologues découvrent qu'il est un obsessionnel qui, dès l'adolescence, après la mort de son père, a développé des TOC.
En général, ce type de TOC va survenir après une agression sexuelle.
Tony Harpin, expert psychologue.
Bon, moi je lui ai posé la question, hein, et il m'affirme que non. Je veux bien le croire, hein, je peux pas vérifier, mais c'est quand même curieux. Mais lui, il dit que c'est à partir du décès de son père, où à ce moment-là, il va devenir hyper méticuleux, qu'il ne va pas supporter, par exemple, de s'endormir si son oreiller n'est pas placé de telle et telle manière, s'il n'a pas mis ses chaussettes à tel endroit, son slip suspendu, enfin, bon, tout un tas de rituels comme ça, mais surtout des rituels de lavage.
Ce système de personnalité se percevait en détention.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
Les surveillants disaient de la chambre, la cellule de Jonathan Daval, que c'était la maison de Barbie. Parce que tout était bien rangé, enfin, tout était en ordre. Les troubles obsessionnels compulsifs, c'est le besoin de vérifier quelque chose qu'on a déjà vérifié 3-4 fois. C'est la personne qui va vérifier 10 fois si elle a bien fermé la porte, si son téléphone est bien dans la poche. Et les obsessionnels sont des gens qui ont un amour de l'ordre, de la propreté, du travail bien fait, qui sont très justes, très rigoureux. Ce sont des gens qui ont une agressivité importante, qui refoulent cette agressivité, et sans que ce soit une manipulation, hein, c'est important de le préciser. Donc c'est un système qui est rigide, il y a peu de souplesse. Et lorsque la situation devient trop pénible, le système va craquer, et l'agressivité qui a été refoulée va faire retour, et peut faire retour de façon tout à fait importante, massive et surprenante.
Si on veut essayer de comprendre un petit peu comment cette personnalité s'est construite, ben il faut remonter à son enfance. Hein, bon, on sait qu'il est d'une famille très modeste, hein, le dernier d'une fratrie de 6 enfants, les parents se sont séparés alors qu'il avait à peu près 2 ans, il a gardé d'ailleurs de bons contacts avec son père, hein, c'est pas le problème. Mais ensuite, ça va être un enfant très chétif, hein, qui va développer certaines pathologies. À l'adolescence, eh ben, en général, les adolescents, hein, ils faisaient du foot, bon, on crâne un petit peu, ben lui, oui, mais il a une grosse scoliose, il se retrouve avec un corset. Puis il est en échec scolaire. Alors, ben, pourquoi il est en échec scolaire? Ben, tardivement, on s'aperçoit qu'il a des problèmes d'audition. Donc, on va l'opérer. Il va avoir de l'orthophonie. Mais du coup, il va se mettre complètement un peu à l'écart de ses camarades qui vont le prendre comme souffre-douleur. Donc, pour leur faire plaisir, pour leur être agréable, eh ben, à ce moment-là, il va essayer de faire ce qu'il pense qui serait bien pour lui, pour qu'il soit admis dans ce groupe dont il est rejeté. Et je pense qu'une partie de sa personnalité va se construire comme ça. Alors, il dit d'ailleurs qu'à l'époque, c'était quelqu'un de très timide, d'effacé, hein, il rase les murs, il va dans sa chambre, il reste pendant des heures à jouer à des jeux vidéo, il cherche pas de contact. Alors, ne parlons même pas des filles, hein. Il a tellement une mauvaise image de lui-même qu'il peut même pas imaginer qu'il est désirable, hein. Donc, il va pas s'amuser à faire le kéké et puis hein, à draguer. Ah non, c'est pas ça. Si une fille vient vers lui, encore à la rigueur, il se demande pourquoi, hein. Donc, quelqu'un d'extrêmement timoré, il se décrit comme ça d'ailleurs, il dit timide, sans volonté, voilà.
Code B42, expertise médicale psychiatrique du docteur Geoffrey Carpentier. Jonathan Daval évoque 2 ou 3 flirts à l'âge de 18 ans, sans relations intimes. Sa première vraie relation amoureuse a lieu avec Alexia. Il dit « J'avais 20-21 ans, j'étais en bac pro informatique à Dijon, elle allait sur ses 17 ans, elle était en seconde au lycée à Gré. On s'est rencontrés à une sortie de ski avec des copains. C'est un de mes meilleurs amis qui me l'a présenté. »
La rencontre d'Alexia et de Jonathan, c'est une jolie rencontre, c'est une jolie histoire, mais elle est aussi symptomatique de l'un et de l'autre.
Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
C'est-à-dire que c'est pas Jonathan qui rencontre Alexia, c'est Alexia qui rencontre Jonathan. Jonathan, lui, s'interdit de rencontrer Alexia, en tout cas d'aller vers elle. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il est un peu plus âgé qu'elle, parce qu'elle est très jolie, parce que lui ne pense pas pouvoir intéresser une fille aussi jolie, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et pour toutes ces raisons-là, il ne fait aucune démarche vis-à-vis d'Alexia. Moi, je l'ai appelé à un moment l'homme transparent. Il a une faculté de se mettre complètement en retrait, de ne pas exister, pour ne pas déranger, un peu comme dans son procès. C'est elle qui va le repérer, et je pense effectivement qu'elle va voir tout ce que nous avons vu aussi en rendez-vous, en se disant, voilà, un jeune homme plutôt pas mal, mais surtout de qui se dégage beaucoup de gentillesse, beaucoup de qualité, et qui s'est dit qu'a flashé sur lui, purement et simplement, et qui va l'inviter à son anniversaire. Surprise totale chez Jonathan, déjà surprise qu'on s'intéresse à lui. Et elle va de l'avant, et c'est même elle qui va l'embrasser. C'est pas lui qui va l'embrasser. Et en partant de là, pour Jonathan, ça va être... D'abord, c'est sa première histoire. On lui en connaît pas d'autres, même s'il a peut-être eu 2 ou 3 flirts, on sait pas trop. Mais en tout cas, là, ça va tout de suite être une grande histoire d'amour dès le début. Le jeune homme toqué n'est plus toqué. La coupe de cheveux change, les habits changent, l'attitude change. Et on voit un jeune homme qui prend confiance en lui au travers la force d'Alexia.
Ils vont vivre un petit moment ensemble dans un appartement, je crois, à Besançon. Puis ensuite, ils vont se retrouver chez les parents donc d'Alexia, qui apparemment régissent beaucoup de choses au début de leur vie commune. Là, vont commencer à apparaître quelques petits problèmes, en particulier au niveau de la sexualité. Parce qu'Alexia, qui a une chambre contiguë avec ses parents, devient de plus en plus réticente à avoir des rapports sexuels parce qu'elle a peur que les parents entendent, enfin bon, s'il y a des fantasmes, un petit peu comme ça. Et donc, lui va en souffrir au début, et puis en 2015, d'après ce que j'ai mes souvenirs, il va faire un blocage sexuel. Il pleure rien, hein, il n'y arrive plus. Donc, à ce moment-là, il va consulter un médecin qui va lui donner un petit traitement qui dit que ça fait plus ou moins de l'effet, mais pas, ça, il n'est pas revenu, disons, à sa puissance maximale. Et alors ensuite, ils vont avoir acheter une maison, mais pas n'importe laquelle. Hein, c'est la maison des grands-parents maternels où ils vont s'installer. Et là, ils vont décider, puisqu'ils ont tous les deux un emploi, ils vont décider, eh bien, d'avoir un enfant. Et là, ça se complique encore, parce qu'Alexia fait d'abord une première fausse couche. Ensuite, elle aurait été traitée à ce moment-là pour les problèmes sans l'impossibilité d'avoir un enfant. Mais elle est un peu dans le déni, nous dit-il, et elle le renvoie, j'allais dire, elle l'accuse, lui, d'être impuissant, et que c'est parce qu'il n'est pas capable d'avoir des relations sexuelles qu'ils n'ont pas d'enfant.
Code B165, expertise psychiatrique du docteur Jean Canterino. Le couple Daval a essayé d'avoir un enfant, mais il n'y est pas parvenu. Jonathan Daval nous explique. Alexia prenait un traitement car elle avait des ovaires polykystiques, et moi j'avais un problème d'érection. À la prison, ils ont trouvé pourquoi j'ai un problème de thyroïde.
L'hypothyroïdie, ça veut dire que la thyroïde fonctionne mal, et dans ce cas-là, tout le métabolisme est ralenti, et il peut y avoir, entre autres, des problèmes d'impuissance. Et on pensait que c'était dû à une cause psychologique, ce qui peut exister d'ailleurs, mais là, ce n'était pas le cas. Le fait qu'il ait une baisse de la libido, et une absence de libido d'ailleurs, induit des tensions tout à fait importantes dans le couple.
Et Alexia va pas l'aider. Elle va pas l'aider, on le sait, au travers des messages qu'elle lui envoie, etc. Elle ne comprend pas les faiblesses de Jonathan, parce qu'elle-même ne les a pas, ses faiblesses. Elle comprend pas qu'elle a affaire de plus en plus au petit garçon toqué qui s'est construit alors qu'on se moquait de lui et qui en souffrait à l'école, et qu'elle le ramène à ça. À chaque fois que des phrases, mais c'est des SMS qu'on a retrouvés dans les portables d'Alexia et puis de Jonathan qu'elle lui a envoyés, ils sont rabaissants. Il y a des messages qui sont vraiment rabaissants.
Code D3449. Extrait des SMS envoyés par Alexia à Jonathan Daval quelques jours avant le crime. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis chiante. Énervé. Peut pas faire d'enfant. Mon mari ne me désire pas. Je lui fais peur. Je vais courir dehors, du coup. Tant pis pour moi. Je ne rentrerai peut-être pas. Et prévois un lit aussi chez ta sœur, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Comme d'hab, quand ça va pas, au lieu d'arranger les choses, de me prouver ton amour, tu fuis. Tu m'abandonnes, car monsieur ne sait pas quoi dire ni quoi faire. Moi, c'est fini. Je ne veux plus ça.
Alexia a essayé de le faire réagir. Sauf que Alexia n'avait pas compris. Parce que vous savez, quand on se rencontre, on montre, c'est ce que disait Cabrel dans une chanson, que les plus belles pages du livre. On ne montre pas les plus moches. Jonathan, il n'a pas montré le petit garçon qui souffrait. Jonathan, il n'a pas montré le petit garçon qui s'était construit sans père. Il n'a pas montré le petit garçon qui avait un corset dont tout le monde se moquait. Il n'a pas montré celui que personne ne choisissait à l'école pour faire du foot. Il restait toujours sur le côté. Il n'a rien montré de tout ça. Elle a vu un jeune homme rayonnant. Elle n'a pas compris que c'est elle qui lui avait apporté sa solidité intérieure en apparence et son rayonnement. Et donc, à partir de ce moment-là, elle ne comprend pas qu'il n'est pas construit comme elle aimerait qu'il le soit à ce moment-là. Et il peut pas. Il a pas l'expérience, il a pas la ressource, Il est très abandonnique, il est très dépendant d'elle. C'est elle qui fait tous les choix de leur vie. Vous savez pourquoi il est manipulateur et menteur dans sa vie quotidienne, ça se voit. Il ne peut pas gérer le conflit. Il ne peut pas dire à Alexia qui ne veut pas qu'il aille voir sa mère, bah j'y vais quand même. Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. C'est-à-dire que ses propres mensonges vont créer encore plein d'autres problèmes dans sa vie, dans son couple, dans sa relation. Et lui, il croit qu'il a réglé le problème par une manipulation. Et la relation se déséquilibre complètement. Et Alexia, plus que Jonathan, je pense, elle a un modèle de réussite. C'est le mariage, c'est un travail, et il manque plus qu'une chose, agréer dans cette maison au mur rose, un enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, et bien là c'est le drame. Bah Jonathan, il n'est pas capable d'assumer son rôle de reproducteur. La finalité, ça va devenir d'avoir un enfant. J'ai même eu le sentiment que c'est difficile pour un enfant, parce qu'il a des côtés très puérils, de vouloir un enfant. Et je pense que Jonathan, lui, s'il ne rentrait plus chez lui, s'il rentrait de plus en plus tard, s'il allait de plus en plus chez sa mère, c'est qu'il n'était plus à sa place dans cette maison. C'était devenu non plus la maison du bonheur, mais c'était devenu la maison de l'écueil conjugal. Et effectivement, soit ça se terminait par une rupture très dure, soit ça se terminait par un drame. C'est ce qu'on appelle l'effet cocotte-minute. Le refoulé explose. Et là, tout ce qui a été refoulé ressort. Et ça s'exprime par la violence.
Il fuyait l'idée que ça n'allait pas entre eux pour justement ne pas fuir le couple. Il voulait pas voir que ça n'allait pas entre eux.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
C'était un couple, c'était ni sans toi ni avec toi. C'est-à-dire qu'ils étaient capables ni de se séparer, ni de vivre ensemble. Et donc ça, ce sont des situations extrêmement dangereuses. Et ce soir-là, ça a explosé, sans raison particulière, je veux dire. Il n'y a eu rien de plus que d'habitude, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est à force de faire comme si les choses n'allaient bien, et puis ce soir-là, il y a la scène de trop. La pression a augmenté, là ça a explosé.
Alors, le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement ce soir-là ?
Tony Harpin, expert psychologue.
Et ça, c'est... Bon, là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Moi, j'ai ma version des faits. Je pense réellement que, à un moment donné, il n'en pouvait plus, quoi. Il n'en pouvait plus de se soumettre. Il n'en pouvait plus d'entendre des choses sur lui, sur sa sexualité, qu'il n'était pas un homme, etc. Mais je pense qu'il y a un mot qui a été prononcé, et ce mot, ça a été le mot de trop. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le mot qui tue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un mot qui va toucher en plein la faille narcissique de la personne en face. Et à ce moment-là, cette personne va perdre le contrôle d'elle-même et va réagir de façon totalement inattendue. Parce que souvent, même moi j'ai vu des victimes qui s'en étaient sorties et qui disent « mais en face, il était transformé ». Donc moi je pense qu'il y a eu à ce moment-là quelque chose de cet ordre-là. Et que le mot de trop, c'était vraiment t'es un sous-homme, quoi. T'as pas de quéquette ou un machin comme ça, quoi. Et ça, je crois qu'il n'a pas pu le supporter.
Après le meurtre d'Alexia, Jonathan Daval n'a pas eu un comportement rationnel. Il n'a pas appelé les gendarmes. Il a fait comme si de rien n'était et repris sa place de gendre idéal au sein de sa belle famille. Comment cet homme fragile a pu trouver les ressources pour mentir à ses beaux-parents ?
Et alors, c'est un phénomène, là aussi, qu'on connaît bien en tant qu'expert, qui s'appelle le passage... Alors, on parle souvent de passage à l'acte. Moi, je ne parle pas de passage à l'acte, je parle de passage par l'acte.
Tony Harpin, expert psychologue.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'intérieur de l'individu, il va y avoir des tensions importantes qui vont monter jusqu'à l'explosion. Hein. Mais une fois que l'explosion a eu lieu, les tensions sont retombées. Et à ce moment-là, l'individu va redevenir lui-même. Et quand, effectivement, Jonathan Daval a pris conscience de la gravité de ce qui venait de se passer, eh ben, il a essayé de trouver les moyens logiques de pouvoir s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'il est redevenu lui-même. Mais c'est pas avant. C'est pas dans la préméditation, ça. Moi, j'en sais rien si c'était prémédité ou pas, je le pense pas. Mais c'est après. C'est une fois que la tension est retombée, là, il est redevenu l'homme raisonnable. L'homme qui, jusqu'à un certain point, parce qu'aller faire passer pour une joggeuse quelqu'un qui est enveloppé dans un drap, ça paraît pas très logique non plus, vous voyez. Mais il y a quand même une certaine logique ensuite dans le comportement qu'on ne pouvait pas penser avant. Alors souvent aussi ce qu'on retrouve, et c'est pas propre à lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne ne va pas se dénoncer tout de suite, eh bien, elle va faire ce qu'on peut appeler de la procrastination. Hein. C'est-à-dire, ben, je vais le faire demain. Et puis demain, ben non, je n'ai pas le courage. Ben, je vais le faire après-demain. Comme il dit à un moment donné qu'il voulait se suicider. Alors, il dit qu'il a voulu se suicider une première fois tout de suite après. Et puis, il n'en a pas eu le courage. Et puis ensuite, il a pris la voiture avec le corps de sa femme et il avait l'intention de se suicider. Et là encore, il n'a pas eu le courage. Et je crois que c'est comme ça qu'il a fait que de jour en jour, eh ben, il attendait l'échéance. Il savait que ça arriverait, mais bon, c'était toujours un jour de gagner, en quelque sorte. Et il s'est enfoncé et enferré dans son système.
Pourquoi Jonathan Daval a dissimulé à ce point-là le crime, après l'acte, mais pendant pas mal de mois après, hein.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
Puisqu'il montrait à quel point il était malheureux, il y a le fait qu'il voulait échapper à la justice, il y a une dimension de manipulation, hein, faut pas être naïf. Mais je pense qu'on peut pas s'arrêter là, d'un point de vue psychique. Il y a aussi, et là, on revient à la personnalité obsessionnelle, c'est que il veut qu'il y ait rien qui dépasse. Hein. Chez l'obsessionnel, il faut que tout soit nickel. Là, pour le coup, ça avait bien dépassé. Donc, il faut revenir à l'état antérieur où tout est refoulé, l'agressivité. Et donc, tout se donner à voir, on pourrait parler même de cinéma, c'était pas que de la manipulation, c'était aussi une façon d'annuler ce qui s'était passé. C'est-à-dire, à nouveau, d'effectuer un système de refoulement de l'agressivité. Il continuait à être dans ce système, on veut pas voir ce qui va pas. Avant, c'était, il voulait pas voir que dans leur couple, ça ne fonctionnait pas. Et là, il voulait pas voir ce qu'il avait fait. J'efface tout et ça s'est pas passé parce que je peux pas avoir fait quelque chose comme ça. Il voulait gommer comme si c'était possible. Évidemment, ça ne l'est pas.
Je pense qu'il a plus su s'en sortir après. Bon, le choix, c'était de téléphoner à la police et dire « j'ai tué ma femme ». Mais ça, je crois qu'il pouvait pas l'admettre lui-même. Je sais même pas si, au niveau du conscient, il en était vraiment conscient qu'il était à l'origine de ça. Hein. Ça s'appelle le déni. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai pas pu faire une chose pareille. Moi, je l'aime, ma femme. Et je pense que ses pleurs après tout ça, c'était quelque chose d'absolument vrai. Hein, c'est-à-dire qu'il regrettait beaucoup et qu'il pleurait sa femme aimée. Hein, ça, c'était pas fin. Hein, c'est-à-dire que quand il pleure, je pense qu'il pleure réellement sur sa femme. Hein, mais il pleure beaucoup aussi sur lui-même. Hein.
Code B19. Expertise psychologique de Tony Harpin. Égocentré, Jonathan Daval ne supporte pas que son image soit ternie et peut développer des mécanismes de défense propres à le préserver. Déni, projection et clivage. Il explique son comportement par un état de panique et de désarroi. Ses propos sont en contradiction avec la façon méthodique dont a été orchestrée la mise en scène de la disparition de sa femme.
Alors, la difficulté à tenir un mensonge pendant 3 mois comme ça, oui, ça devait beaucoup le perturber. Mais il était face à deux difficultés, soit mentir, soit regarder en face ce qu'il avait fait, ce qui n'est pas non plus facile étant donné ce qu'il avait fait. S'il disait la vérité, tout son système psychorigide mis en place, tout est en ordre, tout va bien, je suis le gendre idéal, nous sommes le couple idéal, s'il reconnaissait ce qu'il avait fait, tout s'effondrait. Et ça, c'était impossible pour lui. De même qu'il était impossible pour lui de se séparer, parce que s'il se séparait, il fallait qu'il dise pourquoi. Et s'il disait pourquoi, là aussi, la vitrine implosait. Cette impossibilité à voir les choses en face fait qu'il est passé à l'acte et fait aussi qu'après, il y avait à nouveau un décor qui était planté pour montrer que tout allait bien et tout était au mieux dans le meilleur des mondes. Et là, pour que ça n'existe plus, eh bien, finalement, on est bien obligé de raconter n'importe quoi.
Et je pense que ça a été des mensonges qui lui ont permis quoi ? De garder sa place ?
Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
Qui lui ont permis quoi ? De faire que les yeux des parents d'Alexia lui renvoyaient le même regard dont il avait besoin, qu'il lui renvoyait avant la mort d'Alexia. Que sa mère le prenne dans ses bras comme avant, et que lui aurait souhaité que personne ne sache jamais rien.
Le 27 juin 2018, quelques semaines après son rendez-vous avec l'expert psychologue, Jonathan Daval change de version et il accuse son beau-frère d'être le meurtrier. Il raconte que la soirée raclette chez ses beaux-parents a dégénéré et qu'à la fin du repas, Alexia a fait une crise, que tout le monde a tenté de la calmer et qu'à la fin, son beau-frère l'a étranglée. Personne n'y croit. Mais Jonathan Daval s'enferme dans son mensonge.
Et là, je pense profondément que la responsable, sans le vouloir, en partie, c'est sa mère. Parce que Jonathan Daval, à ce moment-là, il veut quoi ? Celle qui est toujours là. C'est sa mère. Celle qui le prend malgré tout ce qui s'est passé encore dans les bras, alors que lui pense que tout le monde va l'abandonner après ce qu'il a fait. C'est sa mère. Il aimerait tellement qu'elle ne souffre pas d'être la mère d'un meurtrier qu'il préfère qu'elle se dise « Je suis la mère d'un homme accusé à tort, qui protège quelqu'un d'autre. Je peux continuer à aimer mon enfant comme avant. » Et donc là, on est dans le mensonge purement utilitaire, mais vis-à-vis de sa mère. Il ne veut pas la perdre. Et puis, il aimerait tellement lui enlever cette douleur qu'elle a d'être la mère d'un criminel.
Cinq mois plus tard, Jonathan Daval craque et avoue que cette histoire de complot familial est totalement bidon. À son procès, il assume le meurtre de son épouse et il est condamné à 25 ans de prison.
Un jour, cette détention, cette exécution de peine, effectivement, prendra fin. Il a eu 25 ans, il n'y a pas de période de sûreté spéciale et donc, effectivement, il y a aussi un jour où il sera permissionnable à deux tiers de peine, moins les remises de peine. Et donc, dans quelques années, Jonathan Daval pourra continuer, parce qu'on ne recommence jamais une vie, on la continue. Mais ce qui est sûr, c'est que tout va être très difficile en France. Et d'ailleurs, au-delà de la France, dans beaucoup de pays, on connaît l'affaire Daval, il y a même eu des articles en Chine. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être anonyme. C'est retourner dans l'anonymat d'avant. Ça va être très difficile. Je pense qu'en France, ça va être impossible. Et que pour reconstruire, entre parenthèses, sa vie, même si je déteste ce terme, je pense que ce ne sera pas possible en France et que ça devra se faire ailleurs.
C'était On de la Traconte, Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez On de la Traconte, Côte B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.